Toujours là où il faut le voir. Donc, utrum, si non fuisset peccatum, Deus incarnatum fuisset. Ici, il n'y a pas d'erreur, hein, vous pouvez très bien le prendre, mais c'est simplement pour se rappeler. Voyons la première objection. Au dire de saint Augustin lui-même, il y a bien d'autres motifs de l'incarnation que celui du relèvement du péché. Dieu se serait donc fait homme, même s'il n'y avait pas eu le péché. Mais c'était toute une question d'harmonie entre les motifs. Est-ce que le motif de la rédemption est le motif capital de l'incarnation? Est-ce qu'il est le motif numéro un? Dieu s'est incarné pour la rédemption. Ou est-ce que le motif de la rédemption reste un grand motif de facto? Mais Dieu aurait pu très bien s'incarner pour les hommes. Et si vous regardez tout ce qui est dit avant, hein, tout ce que nous avons dit avant, article 1er, article 2, on a regardé l'incarnation en elle-même. Hein. On a regardé le relèvement de l'homme, oui, ça, on a commencé. Mais avant le relèvement de l'homme, on a regardé la promotion de l'homme. Donc tout est positif du côté de l'incarnation. Et là, on comprend très bien cette question, cet article 3 que saint Thomas prend ici, parce que c'est une question que les hommes se posent, que les théologiens se sont posés. Et à travers toute l'œuvre de saint Thomas, on retrouve toujours cette question-là. Donc c'est une question, je dirais, à laquelle on doit répondre, mais ce n'est pas essentiel. Mais c'est quand même très important. Alors voici la réponse de saint Thomas. Je prends tout de suite le corps de l'article et nous reverrons après les objections. Saint Augustin, exposant ce passage de l'évangile de saint Luc, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Écrit, si l'homme n'avait pas péché, le Fils de l'homme ne serait pas venu. Donc ça c'est catégorique de la part de saint Augustin. Et à propos de ces paroles de la première épître de Timothée, le Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Nous trouvons ce commentaire dans la glose. Il n'y a pas d'autre motif à la venue du Christ Seigneur, que le salut des pécheurs. Supprimer en effet maladie et blessure, nulle raison de recourir au remède. Donc, deux affirmations, la glose et saint Augustin. La glose, 11e siècle, saint Augustin, alors, vous voyez bien, plus enraciné dans toute la grande tradition. Donc, l'autorité que prend saint Thomas, là. Et saint Thomas sait très bien qu'au point de vue autorité, on peut discuter. Aujourd'hui qu'on connaît mieux les pères de l'Église, on discute et on montre que les pères de l'Église ne sont pas si nets. Que dit saint Thomas, c'est pas si net. Alors, regardons dans le corps de l'article. Dans le corps de l'article, saint Thomas va plus loin que la tradition. Diverses opinions ont été émises à ce sujet. Quand saint Thomas commence comme ça, il montre très bien qu'il y a un statu quo qui serait très intéressant, un statut questionnis qui serait très intéressant à voir. Voir quelles sont les opinions pour, quelles sont les opinions contre. Donc, diverses opinions ont été émises à ce sujet. Certains prétendent que même si l'homme n'avait pas péché, le Fils de Dieu se serait incarné. D'autres soutiennent le contraire. Et c'est à leur opinion qu'il semble préférable de se rallier. C'est quand même assez net. Hein. Pour saint Thomas, il ne refuse pas l'autre opinion. Il ne la condamne pas catégoriquement. Il n'a jamais condamné. Mais il considère que l'autre est plus proche de la révélation. Les choses en effet qui dépendent de la seule volonté de Dieu et auxquelles la créature n'a aucun droit ne peuvent nous être connues que dans la mesure où Dieu veut bien nous les manifester et nous les transmettre par la Sainte Écriture. Comme l'incarnation est un moyen absolument libre pour le salut des hommes, Dieu aurait pu choisir un autre moyen, nous ne pouvons en parler que dans la lumière de la révélation. Et ça, c'est la saine théologie. Hein. Toutes vos hypothèses, très très bien vos hypothèses. Il y a une chose qui est sûre, c'est que la révélation nous présente le mystère de l'incarnation, toujours lié à la faute de l'homme. C'est à partir de la faute de l'homme qu'a été promis le mystère de l'incarnation. C'est donc bien à partir de là que le mystère de l'incarnation a été révélé. On ne peut pas séparer ce que Dieu a uni. Dieu a uni le mystère de la rédemption et le mystère de l'incarnation. Il a toujours uni les deux. C'est toujours pour venir au secours des hommes que le mystère de l'incarnation apparaît dans l'Écriture. Or, le motif que partout la Sainte Écriture donne de l'incarnation, c'est le péché du premier homme. Il apparaît donc plus probable conveniencius. Il apparaît plus probable que ce mystère a été ordonné au péché comme un remède, à tel point que sans le péché, l'incarnation n'eût pas eu lieu. Cependant, il faut reconnaître que pour autant la puissance de Dieu n'est pas limitée et que Dieu aurait pu, même en dehors de l'hypothèse de la chose, de la chute, s'incarner. Très très modéré, hein, très normand. Théologien qui montre, mais on voit quand même très bien où se situe l'inclination profonde de son cœur. Faisons attention, faisons de la théologie, regardons l'Écriture. Et revenons toujours à l'Écriture et à la tradition. Mais surtout à l'Écriture, puisque toute la tradition repose sur l'Écriture, c'est un commentaire de l'Écriture. Alors, il s'agit de comprendre ce que dit l'Écriture. Or, l'Écriture nous révèle le mystère de l'incarnation à partir du salut. Il vient comme sauveur. Ça, à travers toute l'Écriture. Il vient comme sauveur. Donc, selon l'Écriture, c'est beaucoup plus probable que le mystère de l'incarnation est lié au mystère de la rédemption, donc au mystère du salut. Ce pourquoi Dieu vient au milieu de nous, c'est pour nous sauver. Mais cependant, étant donné la toute-puissance de Dieu, vous voyez toujours le jeu de la bonté, de la sagesse et de la toute-puissance. Hein, toujours. Et ça, c'est très très intéressant. Étant donné la toute-puissance de Dieu, on ne peut pas faire une théologie dans la lumière de la toute-puissance. Autrement, on ferait une théologie des possibles, Occam. Des potentia absoluta. Hein. Le de potentia absoluta d'Occam, de puissance absolue, Dieu pouvait réaliser l'incarnation indépendamment du péché. C'est bien évident. C'est pas parce que de puissance absolue, Dieu pouvait le faire, que de fait, ceci c'est l'ordre de la sagesse de Dieu. Non, je peux pas dire ça. Les possibles ne me permettent pas de rejoindre la sagesse de Dieu. Alors là, c'est toute la grande théologie de saint Thomas par rapport à la connaissance de Dieu. Où saint Thomas distingue les possibles de la volonté expresse que Dieu veut par rapport à tel ou tel qui doit se réaliser. Et alors là, il y a un amour de complaisance. Il y a un amour gratuit. Dieu choisit parmi les possibles ce qu'il veut. Or, le théologien essaie de découvrir l'ordre de la sagesse de Dieu. C'est uniquement ça que cherche le théologien, c'est de découvrir l'ordre de la sagesse de Dieu. Le théologien ne cherche pas en premier lieu de découvrir les possibles. Non. Ça, un bon métaphysicien, un bon philosophe de philosophie première peut faire ça. Un Avicenne peut le faire. Et il le fait magnifiquement. Parce qu'il est dans les possibles. Il le fait avec beaucoup de subtilité. Toute la théologie néoplatonicienne tend vers les possibles. Le réalisme de saint Thomas, c'est de revenir à l'Écriture qui nous révèle ce que Dieu a voulu faire et ce que Dieu a fait. Alors, pour mieux comprendre ce que Dieu a fait, il est quelquefois bon de prendre un peu de recul. Et prendre un peu de recul, c'est justement voir que c'est tout à fait libre que Dieu a fait ça. Que ce n'est pas du nécessaire. Alors là, c'est un très très gros problème et qui est toujours très intéressant à voir. Comment le nécessaire intervient dans le possible? Vous savez bien, c'est ça, au point de vue philosophique et au point de vue théologique, c'est toujours très important. Donc, on a le point de vue du possible et le possible qui devient nécessaire. Dès que ça relève de la volonté de Dieu, on est en face du nécessaire. Tout ce que Dieu veut se réalise nécessairement. Tout ce que Dieu pense dans son intelligence première, c'est l'ordre des possibles. Et ça ne se réalise pas nécessairement. Donc le nécessaire, c'est ce que Dieu veut, c'est ce qui est voulu par Dieu, c'est le voulu par Dieu, c'est ce qui est aimé d'une manière telle que Dieu le veut. Donc c'est ce qui est choisi. Alors ça, c'est tout le mystère de la prédestination. Volonté de Dieu, c'est la prédestination. Le possible, c'est très intéressant, mais ce n'est pas Dieu. Eh bien, quand on regarde la sagesse de Dieu, la sagesse de Dieu implique intelligence, implique volonté, mais la sagesse de Dieu, l'ordre de la sagesse de Dieu, est un ordre d'amour, c'est un ordre de la volonté. Alors, je retrouve le mystère de la prédestination. Tandis qu'au contraire, si je regarde la toute-puissance, elle est liée en premier lieu à l'intelligence. Dieu peut réaliser un monde meilleur que celui qu'il a réalisé. Est-ce que le monde que Dieu a réalisé, c'est le monde le meilleur qui soit? Ça doit se poser la question, c'est intéressant. Est-ce que le monde qui est le nôtre, est-ce que c'est le meilleur qui soit? Cet homme a dit non. Dieu aurait pu réaliser un autre monde, meilleur. Et pour chacun d'entre nous, il aurait pu mettre un petit coup de pouce d'intelligence plus grand, un petit coup de pouce de volonté plus grand, un petit quelque chose de... On aurait pu tous, chacun d'entre nous, être meilleur. On n'est pas le maximé dans la nature humaine. Seule l'humanité sainte du Christ est la réalisation plénière du maximé. Alors, c'est tout ce problème constant. Et voyez, cet article, cette question à ce point de vue-là est très intéressante parce qu'on voit très bien ce qui relève de la toute-puissance, c'est de l'ordre des possibles. Alors, on comprend très bien quand on se pose la question du nécessaire. Est-ce que l'incarnation était nécessaire au relèvement humain? C'est un nécessaire qui présuppose une volonté de Dieu par rapport à une fin. Toujours par rapport à la fin humaine et pouvoir atteindre cette fin de la manière la plus digne qui soit et la plus parfaite qui soit. Mais ce n'était pas nécessaire comme ça s'imposait à l'intérieur des possibles. Donc il y a une volonté de choix, une volonté d'amour. Vous savez que c'est à l'intérieur, lorsqu'il s'agit des possibles, les possibles deviennent nécessaires quand il s'agit de l'ordre pratique. Grâce à la volonté. Les possibles peuvent devenir nécessaires dans l'ordre de la création artistique. C'est le seul cas. Alors, ce serait très intéressant aussi, vous voyez aussi, de regarder une théologie plus esthétique. Parce que c'est vrai que dans l'inspiration artistique, là, je parle ici à l'ordre philosophique, l'inspiration me met en face d'une quantité de possibles. Et comment le possible va devenir nécessaire, il va devenir à l'intérieur même de l'inspiration. C'est le seul cas où le possible devient nécessaire par lui-même. Tandis que dans l'ordre pratique, dans l'ordre prudentiel et dans l'ordre de la sagesse, le possible devient nécessaire par le point de vue de la volonté et par le point de vue donc, de l'amour. C'est par l'amour que le possible devient nécessaire et que je le choisis comme un moyen nécessaire. Donc, je crois qu'ici, cet article qui a fait couler beaucoup d'encre, il est très facile. C'est très facile, une fois qu'on a compris ce raisonnement de saint Thomas. C'est bien évident que l'incarnation pouvait se réaliser autrement. Oui.
Alors là, il fait porter le possible sur le péché. Est-ce qu'il aurait pu se permettre de faire...
L'hypothèse du péché.
Est-ce qu'il aurait pu se permettre de faire porter l'hypothèse sur l'incarnation?
Ah, c'est sur l'incarnation, non? Vous voyez le problème. Hein. Selon l'Écriture, rédemption, le salut, la sotiologie et le mystère de l'incarnation sont toujours liés. Toujours liés. Regardez dans l'Écriture, c'est toujours pour notre salut que le Messie doit venir. Et le Messie, c'est le Fils de Dieu. Il y a le salut, promesse d'un salut. Ce salut se précise. On regarde ça. On se pose donc la question, est-ce que ce lien entre le salut et l'incarnation est un lien de sagesse divine qui s'impose à nous? En ce sens, que s'il n'y avait pas eu le péché, est-ce que l'incarnation aurait pu avoir lieu? Oui, séparer l'incarnation du salut. Et donc l'hypothèse porte sur le point de vue, puisque le salut, c'est sauver le pécheur. S'il n'y avait pas eu de pécheur, alors le remède n'aurait pas eu lieu, mais l'incarnation, c'est pas seulement un remède. Et on l'a vu précédemment, on a montré l'incarnation dans un ennoblissement pas premièrement le remède, en premier lieu, foi, espérance et charité, l'opération humaine, et puis la béatitude. Donc c'est vu, non pas du tout comme remède, c'est qu'il y a une vision du salut et de la rédemption qui peut être vue uniquement comme un remède. Alors à ce moment-là, on ramène l'incarnation à un remède. Vous voyez ? Alors on veut montrer, en se posant la question, si le péché n'avait pas eu lieu, est-ce que l'incarnation a eu lieu ? Autrement dit, puis-je, dans une vision de sagesse de Dieu, dire que l'incarnation est voulue pour elle-même, alors dans la perspective de beaucoup, comme le sommet de la création, comme si toute la création appelait ce mystère d'incarnation. Oui, c'est vu dans ce contexte, comme si l'incarnation était le sommet de tout mystère du Dieu créateur. Ou au contraire, l'incarnation doit se voir uniquement dans la perspective du salut. Alors, saint Thomas montre que si je regarde l'Écriture, je vois ce lien, et comme l'incarnation relève du bon plaisir de Dieu, je ne peux pas dire plus. Je ne peux pas aller plus loin. Mais je peux dire que Dieu, dans sa toute-puissance, pouvait très bien donner autre chose. Ça n'aurait pas été du tout contraire à sa sagesse. Et les raisons qu'il a données précédemment montrent bien que ça n'aurait pas été contraire à sa sagesse. Et c'est ça qui est fort. Vous voyez ? Ça donne une force beaucoup plus grande à l'argumentation de saint Thomas, que saint Thomas précédemment a montré tout le mystère de l'incarnation dans une perspective d'ennoblissement de l'homme, dans une perspective de quelque chose qui ne fait pas appel directement au péché. Les raisons qu'il a données ne font pas appel directement au péché, sauf la dernière raison qu'il a donnée. C'est pour ça que je vous l'ai signalé, la dixième. Mais les neuf autres, non. Oui.
On va dire que l'hypothèse fausse un peu le problème, puisque en fait le plan divin qui est d'un côté de sauver l'homme et d'autre côté de manifester et de communiquer l'amour, oui. Ce sont deux causes différentes, mais qui sont en fait organiquement liées. On va dire que la cause propre, la cause immédiate de l'incarnation, c'est la rédemption, c'est la plus manifeste dans l'Écriture, mais la cause ultime et finale, c'est quand même de manifester le Père, enfin, de manifester...
Vous voyez bien la question posée par saint Thomas. Là, vous prenez déjà toute une autre argumentation qui a été développée après. Moi, j'essaie de comprendre ici la position exacte de saint Thomas. Je crois que c'est la première chose qu'on doit faire. Hein. Parce qu'après, c'est autre chose, vous voyez, c'est savoir si, de fait, le mystère de l'incarnation n'implique pas le mystère de la glorification du Christ, le mystère de la glorification du Christ et l'achèvement terminé, c'est bien évident. Mais c'est pas ça que cherche saint Thomas ici. Hein. C'est pour ça que je crois que c'est quand même très important de comprendre que ça devient cet article troisième et non pas du tout premier. Voyez, et dans l'article troisième, on voit bien dans l'hypothèse où l'homme n'eut pas péché, Dieu se serait-il incarné? Pour répondre à ça, simplement à cette question.
Alors, je veux dire, c'est une fausse question.
Non, c'est pas une fausse question. Pardon, c'est pas une fausse question. Elle existe.
Oui, mais enfin, disons, elle n'est pas juste dans le temps théologien, ça te m'a dit, c'est pas une vraie question théologique.
C'est ce que je veux dire, parce que dire théologie possible, c'est pas une vraie théologie. Mais c'est quand même une question, parce qu'elle s'est posée. Cette question s'est posée. Certains ont dit ça, donc on est obligé d'y répondre. Oui, on est obligé d'y répondre. Le théologien comme tel, et c'est pour ça que l'article 1er, l'article 2 ne se pose pas la question. Le théologien comme tel est en face du mystère d'incarnation. Et il essaie de comprendre comment le mystère de l'incarnation a été voulu par Dieu. Je crois que c'est exactement cette question première. Comment le mystère de l'incarnation a été voulu par Dieu dans sa sagesse. C'est une œuvre suprême de sagesse de Dieu, puisque c'est une œuvre d'amour, puisque c'est une œuvre du lien le plus grand de Dieu avec l'homme, donc c'est l'œuvre par excellence de Dieu. On est tous d'accord. On essaie de comprendre le motif profond de la sagesse de Dieu voulant le mystère de l'incarnation. Voilà la question du théologien. Bon. Alors, il essaie de moi de montrer les liens entre l'incarnation et la sagesse, par le point de vue de la bonté, par le point de vue de l'homme. On comprend très bien. Article 1er, article 2. Bon. Ces deux articles sont là pour montrer le mystère de l'incarnation par rapport à Dieu, par rapport à l'homme. Troisième question. Ah, certains ont dit que, dans l'hypothèse, la théologie n'est pas une théologie des hypothèses et du possible, c'est bien évident, mais le théologien vit avec des hommes qui ont posé ces questions. Est-ce que saint Thomas se serait posé la question avant de poser la question ? Je n'en sais rien, parce qu'il ne nous a pas fait d'aveu là-dessus. Mais ce qui est sûr, c'est que saint Thomas est revenu à travers toute son œuvre sur cette question. Donc, c'est pour lui une question qui a son intérêt. Ce n'est pas une question qu'on doit laisser tomber. Elle a son intérêt. Elle a un intérêt qui n'est pas premier, et c'est pour ça qu'elle n'arrive qu'en troisième lieu. Mais on répond à une hypothèse que les hommes se font instinctivement. Et il est évident que la réponse qu'on donne à cette hypothèse fait un point de vue différent sur le mystère d'incarnation. Oui. Et je crois que c'est ça l'intérêt de la chose. Et ça, nous le verrons peut-être plus en théologie mystique. Parce que de fait, hein, toute spiritualité repose sur une théologie. On voit que dans l'Église, il y a diverses spiritualités. Eh bien, je crois que ces diverses spiritualités reposent sur la manière dont on regarde le mystère d'incarnation. Et je crois que c'est ça l'intérêt. Et c'est ça l'intérêt pour le théologien. Vous voyez, la moindre petite déviation du côté de la foi va avoir d'immenses conséquences. Est-ce que le mystère de la croix, le mystère de la rédemption, est-il pour nous central, sagesse?
En fait, si vous répondez oui à l'hypothèse, on rendrait nécessaire l'incarnation, absolument parlant.
Oui. Ah non, pas nécessaire. Non, non, ce ne serait pas nécessaire. On ne pourrait pas dire que c'est nécessaire.
Ce serait plus nécessaire.
Oui, ce serait. Ce serait plus nécessaire et on verrait moins l'amour. Voilà, ça c'est sûr. Et en fond, c'est plus la spiritualité de la toute-puissance. Oui, et de la manifestation et de la gloire. Oui, c'est au fond, en gros, si vous voulez, prenons, puisque nous sommes des deux courants, vous savez bien, on a, après saint Thomas, ça a été Don Scott et les thomistes. Hein. Bon, alors, voir très difficile de savoir exactement, parce que Don Scott est tellement compliqué que c'est pas commode du tout. Même quand on regarde les textes de Don Scott, c'est pas commode du tout d'entrer dans Don Scott. Parce que Don Scott, c'est une théologie hybride. Hein. Il est entre Henri de Gand et saint Thomas, et il essaie toujours de lier les deux. Alors il y a un œil sur saint Thomas, parce qu'il ne veut pas aller contre, saint Thomas a déjà assez de poids, mais il ne veut pas non plus être entièrement disciple de saint Thomas. Alors il est entre les deux, Don Scott est entre les deux, il est entre saint Thomas et Henri de Gand. Et il essaie de faire quelque chose qui soit nouveau, d'une certaine manière nouveau, il recherche la vérité telle qu'il la conçoit. Vous voyez dans la perspective qu'on verrait aujourd'hui, de Teilhard. Ça, c'est très très net. Et tout le monde pense à Teilhard quand on pense à ça. N'est-ce pas ? Et tout le monde pense à cette vision de Teilhard qui, la création, est quelque chose de si grand qu'elle réclame à sommet l'incarnation. Et l'incarnation dans la gloire du Fils bien-aimé qui fait que la nature humaine glorifiée dans le Christ donne la signification dernière à cette création de la nature. Ça, c'est très net, c'est cette perspective-là. L'Église a dit dans son jugement sur Teilhard, vous savez, prudence, parce qu'on ne voit plus assez la place de la croix. C'est ça. On ne voit plus assez la place de la croix. On ne voit plus assez que la croix est notre sagesse. Notre sagesse est-elle, comprenez bien, le mystère de l'incarnation ou le mystère de la rédemption? C'est gros de dire ça, hein, parce que le mystère de la rédemption implique le mystère de l'incarnation, mais peut-on séparer une sagesse d'incarnation d'une sagesse de rédemption? Alors là, vous voyez tout de suite les conséquences. Peut-on séparer les deux? Ou au contraire, notre mystère, notre manière de vivre de la sagesse de l'incarnation, ça ne peut être que par là. Je crois que là, on touche vraiment un problème très, très actuel. Parce que je crois fondamentalement ces problèmes actuels. On verrait ça avec des conséquences. C'est pour ça que c'est très important. Et j'aime bien de regarder la limpidité de saint Thomas. Vous voyez, le bon sens de saint Thomas. C'est merveilleux. Hein, le bon sens de saint Thomas. Oui, oui. Il s'agit de regarder la volonté de Dieu. Chercher les motifs de l'incarnation, mais scrutez bien l'écriture. Ce qu'il y a que là, vous pouvez trouver. Hein. Scrutez bien l'écriture. C'est très bien d'avoir une très belle imagination, c'est très très bien de vous mettre à la place de Dieu, c'est très très bien, mais regardez l'écriture, puisqu'au fond, il s'agit d'un amour de Dieu pour les hommes. Il s'agit de Dieu qui nous révèle son mystère, qui se révèle à nous. Or, de fait, dans l'écriture, toujours salut et incarnation sont liés. Mais il y a le salut, il y a le Messie, et ce Messie implique le mystère d'incarnation du Fils de Dieu. Salut, Messie. Les deux, c'est comme ça. Progressivement, on arrive à ce mystère. Donc, dans une lecture de foi à l'égard de l'écriture, je vois que le mystère de l'incarnation est lié au mystère du salut. C'est par le mystère du salut que j'aborde le mystère de l'incarnation. Dans une théologie de l'économie divine, c'est vraiment par le mystère du salut que j'aborde le mystère de l'incarnation. Cependant, saint Thomas n'exclut pas, c'est bien évident que la toute-puissance de Dieu pouvait très bien réaliser le mystère de l'incarnation indépendamment du mystère du péché. Indépendamment du salut des hommes, donc indépendamment, puisque si l'homme n'avait pas péché, il n'aurait pas besoin d'être sauvé, il a simplement besoin d'une promotion nouvelle. La promotion peut se faire à partir de la blessure, ou la promotion peut se faire tout simplement à partir de l'état dans lequel on est. Alors, une promotion nouvelle vers quelque chose de plus. Mais ceci, on peut le dire, la toute-puissance de Dieu ne nous interdit pas de le dire, c'est bien évident, et la sagesse de Dieu non plus. C'est souverainement sage pour Dieu, l'incarnation, on n'a pas fait allusion au péché. Donc c'est souverainement sage pour Dieu, mais de facto, pour nous, le mystère de l'incarnation est donné à travers le mystère du salut et donc de la rédemption. Je crois que c'est comme ça qu'on comprend. Oui.
Dans l'article précédent, les 10 raisons sont données par saint Thomas comme pour la réparation de la nature humaine.
Oui, oui.
Donc même les 9 qui sont indépendantes du péché.
Oui, oui, toutes. Mais voyez, c'est sûr, c'est évident, c'est de montrer la plus-value du mystère d'incarnation par rapport à nous. Vous voyez ? Et c'est donné, regardez les 5 premières, pas l'illusion du péché.
Oui, mais dans tout le
cadre. Ah oui, dans tout le cadre, c'est sûr. Mais ce que, les motifs propres de saint Thomas, vous voyez ? Saint Thomas se place en théologien, donc pour lui c'est net. Il a toujours regardé le mystère d'incarnation à travers le mystère du salut. Vous ne pouvez pas en parler autrement. Vous voyez ? Mais de fait, quand il essaie d'analyser, c'est ça qui est quand même intéressant, parce que ça donne une valeur, vous voyez, à cette hypothèse. Si le péché n'avait pas eu lieu, bien, ces raisons-là auraient toujours valeur. Pour la foi, l'espérance et l'amour, pour l'opération humaine, pour ma béatitude, très très bien. Il le reconnaît, ça. Alors, c'est pour ça d'autant plus fort, cet article 3, qu'il avait dit ça, hein, vous voyez. Parce que s'il avait placé tout de suite dans une perspective, on dirait, bon, c'est une perspective, vous voyez, la perspective qu'il prend, c'est tout de suite la perspective de la satisfaction. Et il tombe jubilé par ça. Pas du tout. La satisfaction arrive en dernier lieu. C'est très, très curieux.
C'est l'occasion, c'est le motif immédiat.
Le mystère du péché.
Oui. Puisque la finalité de l'incarnation, c'est finalement la glorification de Dieu et la promotion de l'homme. Mais
toutes les œuvres de Dieu, c'est la glorification de Dieu. Donc, toutes les œuvres de Dieu. Et ici, on cherche pourquoi le mystère d'incarnation.
La plus explicite, dans les écritures, c'est la plus explicite.
C'est la seule.
C'est la seule. L'autre est implicite.
Non, elle n'est pas révélée. jamais dit que Dieu viendrait. Ben non, c'est jamais été dit. Non, non.
Le Christ nous a parlé de son Père,
il n'a pas
il nous a parlé de son Père.
Mais oui, il a parlé de son Père, c'est sûr. Il est venu nous révéler la grandeur du Père. Il est venu révéler la grandeur du Père pour que nous. Alors, c'est les raisons pourquoi nous sommes morts. Foi et espérance et charité. Oui, ce qu'il disait tout à l'heure. On ne demande pas le point de vue du péché. On demande tout simplement le point de vue de la promotion de la
vie. C'est ce qui est preuve, enfin, ce qui est ultime.
Ce qui est ultime. Ce qui est à l'intérieur même de ce motif de l'incarnation pour nous.
Qui est l'occasion, qui est le milieu. Parce que Dieu se manifeste dans sa miséricorde. Il se manifeste le mieux par rapport au péché, dans sa miséricorde. Mais c'est pour se manifester.
Non. Qu'il s'est incarné. C'est pour nous sauver. Ah non, 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 non. Je crois qu'il faut, voilà, être très, très précis. Très, très précis. Vous, tout de suite, vous télescopez pour prendre le point de vue du possible.
Je mets un ordre. Et ça,
ça
ne peut pas, il a raison de dire, on ne peut pas séparer.
On
ne
peut pas les séparer.
Mais on doit mettre un ordre, parce que sinon, alors, on...
Un ordre. Est-ce qu'on doit mettre un ordre à ce que, de fait, il nous est donné comme la sagesse de la croix est liée à la sagesse de l'incarnation. Et la sagesse de l'incarnation, pour moi, ne peut être atteinte que par la sagesse de la croix.
Par, oui, comme vous.
Et dans la sagesse de la croix. C'est ça. C'est pour ça que je dis attention, l'ordre. Parce que vous. C'est ça que. Non, on verra ça progressivement, parce que surtout quand on verra le mystère dans la rédemption. Mais c'est une question qui est évidemment intéressante et très intéressante dans ses applications spirituelles. Moi, c'est surtout ça que je vois. C'est dans les applications spirituelles que cette question a beaucoup d'importance. Parce que c'est le regard que nous avons sur le mystère de Jésus. Alors vous allez me dire, en premier lieu, tout à fait d'accord. Mais le regard en premier lieu, c'est le regard tout court. Hein? Le regard que nous avons à l'égard du Christ, c'est celui qui nous est donné pour être notre sauveur. Il est notre sauveur. Bon, ce sauveur extraordinaire, il est fils de Dieu et nous introduit dans la gloire.
C'est le magnificat.
Le point de vue de la miséricorde. Alors, voyons tout de suite. Il y a encore combien de temps? Tapez, hein, parce que moi je n'entends pas, 5 minutes. Hein. Alors, voyons la première objection. Au dire de saint Augustin lui-même, il y a bien d'autres motifs de l'incarnation. Donc on pourrait dire, alors, réponse de saint Thomas. Tous les motifs que l'on donne de l'incarnation se rapportent en définitive au motif principal du péché. Pertinent, vous voyez, alors, c'est l'ordre. Omnes alie causae que sont assignate pertinet ad remedium peccati. Donc toutes les autres sont ordonnées à celle-là. Si l'homme n'était pas tombé, en effet, il eût pu illuminé des lumières de la divine sagesse et établi par Dieu dans une rectitude morale parfaite, connaître tout ce qui lui était nécessaire. Mais l'homme s'étant détourné de Dieu pour se porter vers les créatures sensibles, il convenait que Dieu se fît homme afin de le sauver par le moyen de ces mêmes créatures sensibles. Et comme le dit saint Augustin, commentant cette parole de saint Jean, le Verbe s'est fait chair. La chair vous avez aveuglé, la chair vous guérit, car le Christ est venu dans la chair pour éteindre les passions de la chair. Mais ça n'ajoute rien à tout ce qui est dit dans le corps de l'article. Ça n'ajoute rien du tout. C'est simplement pour mieux montrer, si vous voulez, je crois que c'est ça qu'il faut prendre, ce qui est dit là. Omnes alie causae que sont assignate pertinent ad remedium peccati. Donc, toutes les autres causes qui sont assignées, pertinentes, appartiennent à celle-là. Sont incluses dans celle-là. Je crois qu'on peut aller jusque-là. Alors, pertinente ad remedium peccati. Donc c'est pour ce remède du péché, il est venu comme sauveur, et toutes les autres raisons s'amènent à ça. Alors, la seconde objection, il convient à la toute-puissance divine de parfaire ses œuvres en se manifestant par un effet infini. Bonteillard. Hein, vous voyez, là, c'est tout à fait ça. Mais une simple créature ne constitue qu'une œuvre finie, puisqu'elle est limitée dans son essence. Au contraire, dans l'incarnation, deux êtres infiniment distants, l'homme et Dieu, se trouvent unis. Donc c'est une manifestation la plus éclatante qui soit, ça c'est sûr. D'autre part, l'univers ne sera vraiment parfait que si la créature la plus haute fait retour à son premier principe en s'unissant à Dieu. Pour toutes ces raisons, il semble que l'incarnation, même sans le péché, devait se produire. Alors, la puissance infinie de Dieu se manifeste déjà dans la production des choses à partir du néant. C'est toujours la grande raison que prend saint Thomas, hein, dans tout son traité de la création. Que la création à partir du néant manifeste la toute-puissance infinie de Dieu. Donc on dit la manifestation. Hein. D'autre part, il n'est requis à la perfection de l'univers qu'une chose. C'est que la créature soit ordonnée à Dieu comme à sa fin, dans les limites de sa nature. Or, l'union hypostatique dépasse ses limites. Ça, c'est le coup de patte très violent par rapport à une perspective théilhardienne. Le cosmos ne peut pas, et l'homme ne peut pas faire comprendre le mystère de l'incarnation. Ça dépasse complètement les limites de l'homme. La simple chose pour que l'univers soit parfait, c'est qu'il y ait un ordre, un désir de Dieu dans l'intelligence de l'homme, un appétit vers Dieu dans l'intelligence de l'homme. C'est la seule chose. Mais ce n'est pas le mystère de l'incarnation. Le mystère de l'incarnation exprime quelque chose de tellement plus grand et tellement au-delà de toute la création que la création ne peut pas le postuler. Terminera la fois prochaine. Mais réfléchissez bien, hein, c'est très bon de poser les questions à ce point de vue-là, parce que c'est une question très importante pour nous. Hein. Très importante. Je vous donnerai deux articles qui ont été écrits, l'un par le père Héris et l'autre par le père Corvès, sur la question. Je ne l'ai pas ici, mais je vous le donnerai. Je vous donnerai peut-être ce soir, pour que vous puissiez voir que cette question-là, elle est débattue encore aujourd'hui, de façon très 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 intéressante, parce que je crois que c'est toujours intéressant de creuser ça. Ce n'est pas commode. Mais voyez bien, article 3, troisième position, tellement important, quand on sort un article de saint Thomas, de le remettre dans la question, puisque c'est la question qui est l'unité, ce n'est pas l'article. Dans la structure de pensée de saint Thomas, c'est toujours la question qui est l'unité. L'article, c'est très très bien, c'est une des difficultés à l'intérieur même de l'ordre des questions.